enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Jésus. Je dis d'être célébré, Père. Je dis de recevoir la gloire, Jésus. Jésus, tu es digne. Jésus, tu es digne d'être béni, Jésus. Tu es digne de recevoir la gloire. Que ta gloire subsiste à jamais. Je chanterai l'éternel tant que je vivrai. Je proclamerai tes hauts faits, Seigneur Jésus. Tu es digne, Agneau de Dieu, oh, de recevoir la gloire. Je chanterai ton nom, je proclamerai ton nom. Oh, les problèmes ne pourront pas me taire, Seigneur. Oh, les soucis de la vie, Père, ne pourront pas, Jésus. Père, je suis sauvé pour te louer. Je suis sauvé pour t'adorer. Je suis sauvé pour te contempler, Père. C'est ma prière, Jésus. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célèbre.
éternel Dieu. Que nous puissions trouver grâce devant toi, ô Dieu très haut. Toi qui règnes dans les cieux. Que nous puissions trouver grâce devant toi. Et que nos prières cette nuit soient exaucées. Seigneur, viens nous parler pour restaurer, Seigneur Dieu, nos vies. Pour restaurer, Seigneur, nos maisons. Pour nous préparer, Seigneur, au mariage. Tu as donné tant d'importance, éternel mon Dieu, à la situation conjugale. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, d'en rester. Viens par nous, enseigne-nous, conduis-nous par ta parole. Ah Dieu, je m'offre à toi, Seigneur. Je t'offre ma vie. Sanctifie-moi, purifie-moi. Sers-toi de moi comme un instrument et donne gloire à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Parce qu'on peut se tenir debout et donner des acclamations à celui qui règne dans les cieux. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. On peut se rasseoir. Alléluia. Salut ton voisin. Dis-lui, sois le bienvenu au mardi des champignons. Nous sommes au mardi des... Non, on ne dit pas champion étant assis, on se lève et on crie. Le mardi des... Le mardi des... Le mardi où le Seigneur forme des... Le mardi où le Seigneur nous transforme en vue d'être des... Nous sommes des... Dans le nom de Jésus, nous sommes des... Des champions pour Jésus, nous sommes des... Pour le roi de gloire, alléluia! Amen. Gloire à Jésus. Ah, soyons les bienvenus au mardi des champions. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons directement rejoindre notre passage de base. Il y a deux mardis de cela. En fait, depuis que nous avons commencé le mardi des champions, ça fait quoi? Ça fait un mois déjà? Mais ça fait combien? Trois mardis? Un mois? C'est notre quatrième mardi aujourd'hui, c'est ça? Voilà, nous sommes... c'est un anniversaire. Joyeux anniversaire de un mois, mardi des champions. Alléluia. Amen. Ok. Donc, nous sommes là ce soir et depuis quelques soirées, hormis le mardi dernier, nous avons reçu un invité, le pasteur Castano. Nous avons fait donc une pause sur l'enseignement. On a eu plusieurs thèmes. La restauration de la gloire de Dieu dans la famille, dans le foyer. Et cette restauration de la gloire de Dieu touche la vie depuis la rencontre du conjoint jusque dans les fiançailles, dans le mariage et dans l'éducation même des enfants. Ma prière est que cette parole puisse transformer votre vie, transformer votre futur foyer, vous donner de bâtir votre couple, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, sur des bases solides, au point de ne pas subir les maladies, entre guillemets, qui frappent les Égyptiens, c'est-à-dire ceux qui frappent le monde, et ceux même des enfants de Dieu qui ne marchent pas comme il se faut avec le Seigneur, ou bien qui ne connaissent pas réellement les principes de Dieu en ce qui concerne le mariage. Ma prière est que cet enseignement puisse faire un miracle. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je prie que cette vérité biblique-là, pendant que vous la recevez, puisse briser les chaînes de tous ceux qui sont encore maintenus dans un célibat qui n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Car je crois que les circonstances qui rendent compliqué aujourd'hui le foyer ne viennent pas de Dieu. On peut donner plusieurs causes. Mais le Seigneur nous dit ceci, si tu t'attaches à ma parole, si tu marches selon moi, je ne te frapperai pas des maladies qui frappent les Égyptiens. Ça veut dire que les problèmes qu'ils connaissent ne seront pas ton partage. Les difficultés qu'ils rencontrent ne seront pas ton partage. Et nous voulons rentrer pleinement dans cette promesse. Au niveau du culte, les dimanches, nous sommes au niveau de la première école de la gloire. Et nous essayons de trouver donc, d'établir le parallèle, parce qu'il y a un profond parallèle avec la gloire de Dieu dans le mariage. Alléluia. Alléluia. Alors, je rappelle donc ceci, le mariage, la situation conjugale est quelque chose qui est extrêmement important pour Dieu. Dieu est plus intéressé que toi par ta situation conjugale. C'est lui-même Dieu qui a dit dans Genèse chapitre 2, verset 18, que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette phrase-là n'est pas de l'homme. Ce n'est pas souvent nous qui nous sommes associés pour dire vraiment la solitude est trop compliquée. C'est Dieu même qui a sorti cette phrase, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il s'inquiète plus de notre situation conjugale que de nous-mêmes. Donc, Adam, c'est-à-dire l'homme, n'est pas le premier à lui poser le problème. Mais pourquoi aujourd'hui tant de situations difficiles, pourquoi aujourd'hui tant de situations compliquées? La famille est tellement importante pour Dieu que le Seigneur pouvait dire en 1 Timothée 5:8 que le fait de ne pas prendre soin de sa famille est plus dangereux et plus mauvais que renier la foi, disent les Écritures. Amen. Et donc nous avons parlé donc de Jéhovah Rapha, de la famille, de ce Dieu-là qui vient restaurer, de ce Dieu-là qui vient venir restaurer ce que le diable a volé, c'est-à-dire la paix conjugale, la paix dans la famille. Cette paix conjugale a été volée depuis le jardin d'Éden. Après que l'homme ait eu mangé le fruit défendu, le fruit de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève ont commencé à avoir leur première dispute conjugale. Adam a trouvé que Ève était la responsable de son malheur. Ève a trouvé que le serpent était responsable de leur malheur. Donc, il y a eu dissension. Les deux n'étaient pas d'accord. Et après quoi, on va voir que, après cette chute, va s'insérer dans leur famille un germe diabolique. Et ce germe va se retrouver dans leur enfant. C'est-à-dire, sans qu'ils comprennent pourquoi, le premier enfant qu'ils ont, qui logiquement est une bénédiction, va avoir dans son cœur des germes du mal. Et cet homme-là, donc, qu'on appelle Caïn, va aller jusqu'à tuer son frère. Pourquoi? Tout simplement parce que l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, lorsque l'homme a quitté la présence de Dieu, ce sont déjà les problèmes conjugaux, problèmes d'éducation des enfants. Vous avez des enfants qui sont honnêtes, sérieux, et vous avez certains qui peuvent être brigands, voleurs, menteurs. Et tout ça sont des choses qui font vraiment souffrir la famille. Alléluia. Alléluia. Ce qui veut dire que lorsque l'homme retrouve la gloire de Dieu, Dieu restaure d'abord son foyer. Amen. Dieu restaure son foyer. Dieu restaure d'abord son foyer parce que lorsque Dieu a créé le monde, lorsqu'il a voulu gérer le monde, il a donné la première mission qu'il a accordée à l'homme. La Bible dit, Dieu bénit les hommes en disant, soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez, assujettissez, dominez. Donc la première mission que Dieu a donnée à l'homme est directement liée à sa situation conjugale. Amen. Cette mission de remplir la terre, de faire venir le règne de Dieu par la domination, est directement liée donc à la situation conjugale. La famille est très importante pour Dieu. Le diable donc va l'attaquer en première position. Et puis donc pour mieux étayer cela, nous avons pris notre texte de base dans le livre de Genèse chapitre 2. C'est ce sur quoi nous nous sommes laissés il y a 2 semaines. Nous refaisons la lecture. Il est dit, 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, Jean 2, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, pardonnez. Jean chapitre 2, verset 1. Allez dans le Nouveau Testament. Amen. Ok. Donc ça va, vous m'entendez bien, non? Ok, ok. Je me suis demandé un moment si c'était le son, si on ne s'entendait pas. Voilà. Donc je reprends Jean chapitre 2, verset 1. Excusez-moi, donc Jean chapitre 2, verset 1. Il est dit, 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Donc, la Bible dit ici au verset 11 que Jésus-Christ a manifesté sa gloire dans une situation de noces. Quand on parle de noces, on parle donc de mariage, on parle de tout ce qui entoure le mariage. Et je vous ai dit la dernière fois que ce n'est pas un simple miracle. Ce miracle-là n'est pas... Bon, c'est vrai, tous les miracles ont un sens profond, mais celui-là, plus particulièrement. Premièrement, le fait que la Bible précise que ce fut le premier miracle de Jésus. Alléluia. Ça veut dire tout simplement que Jésus-Christ a réservé son tout premier miracle à une situation conjugale. Amen. À une situation conjugale. Donc Jésus a réservé son premier miracle à une situation conjugale. Et la Bible dit que c'est là que les gens ont vu la première fois sa gloire. Alléluia. Alléluia. Comprenez donc pourquoi nous lions l'école de la gloire au mariage. Amen. Donc Jésus-Christ, pour rappeler donc l'histoire, ce qu'on a vu de la dernière fois, Jésus est invité à des noces. On va dire ce que ça veut dire. Jésus est invité à des noces. Mais les hommes n'ont pas invité Jésus-Christ en tant que base de leur mariage. Ils ont invité Jésus par coutume. Ils ont invité Jésus-Christ par politesse. Ils ont invité Jésus par respect, par considération. Beaucoup de gens aujourd'hui établissent leur mariage en invitant Jésus, pas parce qu'il est la base, pas parce qu'ils ont l'impression que leur couple dépend de Jésus, pas parce qu'ils ont l'impression que leur foyer doit être fondé sur Jésus. Ils invitent Jésus, le premier groupe invite Jésus par coutume. Vous voyez, ces gens-là, sûrement, Jésus était un parent comme ça. Donc la Bible dit qu'ils ont invité Jésus. La preuve qu'ils n'ont pas invité Christ comme étant la base de leur foyer, c'est que lorsque les difficultés sont arrivées, ils ne se sont pas tournés vers Jésus. Alléluia. Ils cherchaient la solution ailleurs. C'est Marie seule qui s'est tournée vers Jésus. Pourtant, ces hommes-là ont manifesté la politesse d'inviter Jésus-Christ. Vous comprenez? Vous n'êtes pas en train de bâtir un foyer avec Jésus si vous faites un mariage et puis vous venez à l'église pour faire la bénédiction, bénédiction nuptiale. Ce n'est pas... Ça, vous avez invité Jésus. Les gens aujourd'hui, pour eux, ils sont chrétiens ou bien ils sont religieux, bâtir avec le Seigneur ou bien c'est juste être là, ils vivent n'importe comment, ils font leurs fiançailles comme ils veulent, ils marchent comme ils veulent, et puis le jour du mariage, ils invitent Jésus en disant, pasteur, il faut qu'on aille vers toi ou bien aller voir mon père, viens prier pour nous, viens bénir. Vous voyez, ce n'est pas sincère, ce n'est pas sérieux. Si vous bâtissez votre mariage comme ça, le vin va venir à manquer. Alléluia. Alléluia. Donc les gens ont invité Jésus. Ils l'ont invité sans le connaître. Trop de personnes invitent Jésus-Christ dans leur mariage sans le connaître. Il dit, Jésus, viens. Jésus, il faut bénir mon mariage. Jésus, sois avec moi. Mais ils n'ont pas la connaissance de Christ. Et ils ne savent pas que le mariage même est plus important pour Dieu que pour eux-mêmes. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas une phrase qui vient de l'homme. Aujourd'hui, les hommes ne se marient pas à cause de la phrase de Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul que les hommes se marient. Les hommes et les femmes se marient pour d'autres choses. Alléluia. Et c'est ce qui les amène à envoyer le premier vase. Continuons. On va revenir tout à l'heure là-dessus. Continuons notre analyse de Jean chapitre 2. Donc la Bible dit que les gens, ils ont invité Jésus. Mais de toute façon, c'est mieux d'inviter Jésus que de ne pas l'inviter. Alléluia. Alléluia. Mais ils ont invité Jésus-Christ sans le connaître. Je crois que c'est la raison pour laquelle, lorsque Marie est venue le voir, elle dit, Jésus, ils n'ont plus de vin. Il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu me veux quoi? Est-ce que les gens m'ont invité en tant que faiseur de miracles? Ils m'ont invité comme un invité. Je me comporte à leur mariage comme un simple invité. Comme quelqu'un qui est assis à côté. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, mais que me veux-tu? Et donc, ils arrivent à ce mariage, à ces noces. La Bible dit donc qu'ils font la fête, ils font la fête. Je vais préciser, je l'ai expliqué la dernière fois que dans leur pays, lorsqu'on fait un mariage, on amène d'abord le meilleur vin. Lorsqu'on a fini de boire le meilleur vin, si le meilleur vin finit, on essaie de trouver un vin de second rang qui est de mauvaise qualité, en tout cas qui est de moins bonne qualité que le premier, et puis on le prend juste pour terminer la cérémonie. C'était leur coutume. Et ça, c'est la coutume des hommes. Je vous ai expliqué la dernière fois que le vin dans un mariage, le vin est le symbole de la joie. Quand vous lisez le livre de Cantiques des Cantiques, c'est fréquent. Il est dit, Cantiques des Cantiques dit, enivre-moi de ton vin. La femme dit à son conjoint, je suis ivre de ton vin. Quand je rentre devant toi, je sens le vin. C'est tellement... Il y a plein de versets comme ça dans le livre des Cantiques des Cantiques. Alléluia. Alléluia. Et le vin... C'est le symbole aussi donc de la joie. C'est le symbole de la joie qui vous enivre. Et j'expliquais que la dernière fois que lorsqu'on commence un mariage, on a dans les fiançailles, on vit du premier vin. Les gens se rencontrent, c'est les grands moments de joie, c'est les moments où on ne peut pas faire 5 minutes sans s'appeler au téléphone, sans ne pas s'appeler au téléphone. Bonjour, comment tu vas, où tu es? Chaque 5-10 minutes, on s'appelle. On est tellement content d'être ensemble. Ça, c'est le premier vin. Et pendant le premier vin, on a l'impression que le bonheur ne finira jamais. On regarde les autres foyers et quelquefois on se rit d'eux. On dit on ne comprend pas. Parce que quand moi je te regarde, regarde mon chou, quand je te regarde, je ne sais pas si un jour, cet amour que j'ai pour toi prendra fin. Le premier vin. Oui, et on est content, c'est un moment de chaleur intense. C'est le moment où les jeunes gens sautent les clôtures, les jeunes filles. Mais c'est le vin vous rend ivre. C'est pourquoi la Bible parle de premier vin. Le vin, c'est le symbole de la joie. Il y en a beaucoup qui ont déjà bu ce vin là. On dit ces gens, ils s'aiment trop. On dit c'est quel love ça. Ils marchent, ils aiment s'asseoir dans les jardins, bras dans la nuit, bras dessus, dessous. Ils sont contents. Si quelqu'un a fait une demi-journée sans appeler l'autre, le premier vin est tellement doux. La nuit quand tu dors, tu ne fais que rêver à la personne. Le matin, même la première personne, même quelquefois même avant Jésus, que tu veux saluer, c'est l'autre. On est fou amoureux. Le premier vin. La Bible dit que le vin est venu à manquer. Quel que soit le temps, mais le premier vin finit. Le premier vin finit. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque le vin est venu à manquer, je ne sais pas quelle solution ils avaient, mais le réflexe de Marie, elle est partie voir Jésus. Je vous ai dit la dernière fois, mais ça n'a pas de sens. Jésus n'est pas vigneron ni vendeur de vin. C'est-à-dire qu'il ne cultive pas le vin et puis il n'est pas une personne qui a une boutique où on vend du vin. Pourquoi Marie va-t-elle vers Jésus? Et lorsqu'elle vient vers Jésus, Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alléluia. Lorsque le vin vient à manquer, les gens qui ont invité simplement Jésus commencent à paniquer. Alors on va voir notre témoin pour qu'il règle notre situation. Marie, c'est pas. Les gens sont pas. Marie, je ne sais pas ce que les gens faisaient, mais Marie ne s'est pas tournée vers les témoins. Alors on va voir mon oncle. Tonton, viens dans ma maison. Viens régler. La dernière fois, mon mari est rentré à 1:30. Le vin commence à finir. Qui m'explique où il était? Je l'ai vu la dernière fois au culte. Il a trop souri à une soeur. Quand ça commence à arriver comme ça, le vin commence à... On tend vers les dernières gouttes du vin. Lorsque le vin est venu à manquer, Marie a senti que le temps de Jésus est arrivé et que ce passage est trop puissant. Alléluia. Elle a senti que le temps de Jésus est arrivé et que Dieu s'apprête à faire quelque chose. Elle est partie directement voir Jésus. Elle dit, ils n'ont plus de vin. Elle n'a même pas dit à Jésus, fais quelque chose. Elle est venue simplement signaler qu'ils n'ont plus de vin. Parce qu'elle savait que Christ était la solution. Parce que Jésus, Dieu, est la base du foyer. Alléluia. Et je dis ceci, lorsque donc Christ va faire le miracle, il a dit, la Bible dit, il y avait 6 vases qui étaient destinés à la purification des Juifs. Jésus-Christ n'a pas pris les premiers vases dans lesquels se trouvait le vin. Il a pris d'autres vases. Le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 17, dit ceci. Tu ne mets pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Alléluia. Lorsque les hommes ont appelé Jésus-Christ pour venir renouveler la vie dans ce couple, Jésus n'a pas pris le premier vase. Le vase, c'est le symbole de la mentalité. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. De la façon de penser, la façon d'être. De raisonner. Jésus a carrément changé. Il a pris autre chose. Nous sommes en train de parler de la restauration de la gloire dans la famille. Si tu veux voir la restauration de la gloire, si tu veux vivre la gloire dans ta situation conjugale, il te faut changer de vase. Alléluia. Alléluia. Alors, mais changer quel vase? Amen. Alléluia. La Bible dit que Jésus a demandé d'autres vases. Ce qui signifie que le premier vase, les premiers vases où il y avait le vin, n'était pas destiné à la purification des disciples. Mais les premiers vases étaient destinés à quoi? Je vous pose la question. Les premiers vases où il y avait le premier vin qui est fini, c'était des vases destinés à quoi? Des vases destinés à prendre le vin pour le mariage. Ces vases-là n'étaient pas les vases de la gloire. Ces vases où il y avait le premier vin avaient un destin. Faire en sorte que le mariage soit joyeux. Le deuxième vase, les six vases, ils avaient un autre destin. Ils n'étaient pas destinés au couple. Vous me suivez? Ils étaient destinés à Dieu. Le premier vase était destiné au bien-être du couple et du mariage. N'est-ce pas? Parce qu'on a mis à l'intérieur des vins pour le mariage. Le deuxième lot de vases où Jésus a mis à faire mettre de l'eau n'était pas destiné au mariage. Oh, alléluia. Il était destiné pour la gloire de Dieu. Pour la purification. La Bible précise, ces vases-là, ils étaient destinés pour purifier ceux qui cherchent Dieu, les Juifs. Ce n'était pas des vases pour le mariage. Alléluia. Vous savez, quand on parle de destin, on parle d'abord de la... Ici, Dieu est en train de nous parler de la première destination pour laquelle on veut se marier. Quelle est notre vision? Pourquoi on veut se marier? Quel est le destin de notre mariage? Quel est ce vase à l'intérieur de nous qui veut porter? En quoi avons-nous mis notre première joie, la première joie de nos relations? Le vin est le symbole de la joie. Mais dans quel vase as-tu mis ta joie conjugale? Ce n'est pas seulement un vase destiné à des choses impures. Tout ce que tu veux, c'est un vase destiné à votre bonheur commun et au bonheur de tous ceux qui visiteront votre mariage. C'est ça le destin de ces vases. Ce n'était pas des vases pour le commerce. C'était des vases qu'on avait affrétés spécialement pour la joie dans le mariage. Quelqu'un commence à me suivre? Alléluia. Alléluia. La première cause, ce qui amène, la première cause qui amène le vin à finir, se retrouve dans le livre de la Genèse. Alléluia. Lorsque l'homme a mangé le fruit interdit, le fruit de la connaissance du bien et du mal, son premier sentiment, la Bible dit, il a eu honte, il a eu peur, n'est-ce pas? Mais lorsque Dieu lui a posé la question, l'homme a manifesté premièrement de l'égoïsme. La plupart des couples actuellement, Jésus a été invité simplement. Mais Jésus n'a pas construit. C'est un invité. Un invité parce que c'est bien d'avoir Jésus, c'est bien de prier, c'est bien de voir un pasteur. On veut collaborer avec Jésus. Si tu collabores avec Jésus dans le mariage, le vin va finir. Si tu collabores avec Jésus pour choisir ton conjoint, le vin va finir. Lorsque Marie est venue demander à Jésus de faire le miracle, elle a venu dire, ils n'ont plus de vin. Suivez bien la phrase. Elle a dit à ses disciples, faites exactement ce qu'il va vous dire. Votre sagesse ne doit pas rentrer là-dedans. C'est lui qui a créé le mariage. Alléluia! Alléluia! Et le mariage a une destinée. Si le but du mariage ne coïncide pas avec la destinée de Dieu, le mariage va se gâter. Regardez quelque chose. Vous savez, un cellulaire, c'est pour téléphoner. Mais à l'intérieur des cellulaires maintenant, tu as calculatrice, tu as la radio, tout ça là. Mais si tu es là et puis tu dis, j'ai besoin de calculer, est-ce que tu vas l'acheter un cellulaire? J'ai besoin de faire des calculs. Est-ce que c'est un cellulaire que tu vas l'acheter? Parce que même si le cellulaire permet de calculer, il n'est pas destiné au calcul. Alléluia. Le mariage permet de faire certaines choses. Mais le destin initial, ce n'est pas ce que vous pensez. Et quand vous utilisez quelque chose pour ce à quoi il n'a pas été destiné, la chose s'abîme très vite. Elle est sous-utilisée. Tu as un puissant cellulaire, quand tu prends pour calculatrice. Même si c'est compliqué de calculer. Avec un cellulaire, même si tu as de bonnes touches, c'est épuisant, ça devient compliqué. Donc même si ton cellulaire est beau, à un moment donné, le vin du cellulaire va finir. Parce qu'il n'est pas utilisé pour ce pourquoi. Alléluia! Alléluia! Ah, si quelqu'un me suit, tu peux acclamer. On s'en va quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas d'abord fait le mariage pour ton bonheur premier. Or, l'homme se marie avec une pensée égoïste. La base de la majorité des mariages, le sentiment de fond est égoïste. Égoïste par rapport à Dieu, mais même égoïste par rapport au conjoint. Alléluia. Les hommes et les femmes se rencontrent, chacun pour se rendre heureux. Il y en a qui ont dit non, moi j'aime tellement l'autre personne là que en fait c'est pour la rendre heureuse. C'est pas vrai. La preuve, lorsque la personne n'arrive plus à te donner ce que tu attends, tu commences à te séparer d'elle. Parce qu'en réalité, tu n'étais pas avec cette personne-là pour elle. Tu étais avec elle pour toi. Et tu pensais qu'elle était bien adaptée pour te réjouir, ton cœur, toi. Nous choisissons nos conjoints par rapport à ce que... Ah. Alléluia. La réalité, le fond, c'est que c'est animé de sentiments égoïstes. C'est animé des sentiments égoïstes. Si tu te maries avec un sentiment égoïste, ça c'est la mentalité du monde. Le vin va venir à manquer. Cet homme-là, tu es en train de le choisir. Et pourquoi tu veux te marier? Tu es en train de regarder quelqu'un qui va t'arranger, qui peut prendre soin de toi, qui peut t'entretenir. Le mariage, pour nous, n'est pas dans le sens contraire. Quelqu'un que je veux entretenir, que je veux aimer, que je veux aider. Quand je regarde, quand je choisis. Vous savez, c'est très difficile de changer de vase. Là, je veux changer votre ancien vase. On dit, mais pasteur, on se marie pourquoi alors? La majorité des foyers sont fondés sur l'égoïsme. Égoïsme apparent ou non. Mais la réalité, c'est que c'est l'égoïsme. Et même quand j'entretiens la personne, c'est pour qu'elle puisse mieux me servir, pour qu'elle puisse mieux m'apporter. J'investis pour moi, pour mon bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu bâtis ton mariage comme ça, le vin va venir à manquer. Plusieurs causes donc animent. Vous avez les causes charnelles, les causes émotionnelles et même quelquefois même les causes spirituelles. Les causes charnelles. Certains se marient avant de toucher les vases destinés à la purification. Je vais parler même, toucher les aspects qui nous concernent nous-mêmes. Très souvent on se marie, les charnels, c'est pour le sexe. Franchement, ils sont en manque. Et ils cherchent une fille qui physiquement va leur permettre d'être à l'aise dans dans ce domaine.
Ton foyer est destiné, c'est-à-dire que là où tu vas là, le vin va manquer. Ça veut dire la route même que tu as prise ressemble déjà à l'échec. Quelqu'un me suit? C'est vice versa. Frère, dis à ton voisin, il faut casser les vieux vases. Dieu veut glorifier son nom dans ta vie, dans ton mariage, dans tes fiançailles. Dieu veut glorifier, mais il ne peut pas glorifier avec de vieilles outres. Il dit, tu te maries selon la mentalité du monde. Comment veux-tu que je mette du vin nouveau dans une mentalité ancienne? Comment? Qu'as-tu regardé lorsque tu as choisi cette femme? Et puis toi qui n'es pas encore marié, comment regardes-tu les hommes pour choisir? Choisis-tu avec la vision de Dieu ou choisis-tu par rapport à tes intérêts? Alléluia. Alléluia. Donc, les premiers groupes de personnes, donc, attirance sexuelle, par manque. Donc, on essaie de regarder physiquement qui nous sied le mieux. Certaines personnes, donc, les gens, grosses, petites, grandes, claires, et les gens bâtissent leur choix en fonction de cela. D'autres encore, par rapport aux intérêts financiers matériels, tout ça c'est la chair. Il faut quelqu'un pour assurer mes lendemains. Samedi dernier, j'étais avec les non-mariés, j'ai touché un peu ces aspects-là. La vision avec laquelle tu es en train de bâtir te prépare déjà à l'échec. Et vous savez, on ne se rend pas compte, mais l'égoïsme, c'est tellement profond dans le cœur qu'il t'aveugle. Quand tu vois, tu as l'impression que, en réalité, tu veux le bonheur de l'autre. Mais en fait, tu te sers de la personne pour ton propre bonheur. En réalité. Elle aussi, si elle est amoureuse de toi, elle se sert de toi pour son propre bonheur. En fait, servons-nous l'un de l'autre pour notre bonheur respectif. Et puis, le jour où un ne t'apporte plus, toi tu cherches quoi? Un mari doux. Le jour aimant, le jour où il arrive maintenant, il s'est fâché un peu au bureau, il devient un peu coléreux. Il vient et te parle mal. Tu as changé. Ce n'était pas comme ça que tu étais au début. Tu as trahi ma confiance. J'avais mis ma confiance en toi. Je m'étais dit que jamais toi, tu me ferais cela. Ça révèle ce qu'elle pensait. Depuis le début, c'était des sentiments égoïstes. La personne ne raisonne pas en disant la mentalité de l'amour de Dieu. Pourquoi tu as changé? Est-ce que tu as un problème? Que dois-je faire pour te ramener à être une bonne personne? Il y a des défauts qui commencent à venir dans ta vie. Je suis inquiète pour toi, pas d'abord pour moi. Pas ce que tu me fais, mais qu'est-ce que tu te fais à toi? Alléluia! La vérité c'est que, je vais vous dire quelque chose, la vérité c'est que en fait, si on va aller profondément, tu n'aimes pas ton conjoint, tu t'aimes toi-même. Et tu cherches quelqu'un pour mieux t'aimer. Tu t'aimes et tu cherches une personne qui va bien t'aimer. Mais la réalité, c'est que tu ne l'aimes pas. Ou tu calcules et tu réfléchis. Parce que tout ce principe-là, par rapport à l'égoïsme dont je viens de parler, sous-tend après tout le commandement du Seigneur qui dit, femme soit soumise, mari aime ta femme. Mais l'amour dont il est question dans Marie aime ta femme. Je l'ai dit, il y a trois termes dans la parole de Dieu qui expriment la notion d'amour. Un amour qu'on appelle Eros, Philéo, et puis un autre qu'on appelle Agapé, dont le verbe est Agapao. Le français est pauvre. nous appliquons la même notion, le même mot aimer pour toutes sortes de situations. Tu vois un poulet que tu aimes manger, j'aime le poulet. Mais le même mot aimer, tu l'appliques aussi à ton mari. J'aime mon mari. Mais tu n'aimes pas ton mari comme tu aimes le poulet. Le poulet, c'est pour le manger. C'est deux choses différentes. Et tu dis, j'aime mon enfant. Tu vois, donc c'est le même mot aimer, mais qui ne traduit pas la même chose. Dans certaines langues, comme l'hébreu ou le grec, on fait une différence. Tout ce qui est amour, attirance vers un objet ou quelque chose, pour un intérêt charnel, s'appelle eros. Donc, on peut classer, bon, on ne dira pas amour du poulet, mais tout ce qui est attirance vers la nourriture. La nourriture, ce n'est que la bouche, l'estomac. Il y a attirance vers toi, il y a le sexe, il y a le toucher. En fait, il y a tout ce qui nous concerne. Donc, ça veut dire que tout ce dont on a envie de consommer pour satisfaire sa chair peut se classer dans le groupe du sentiment éros, qui a donné le mot donc érotique. Certains, donc, c'est pour le sexe, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a un autre sentiment, donc, un autre type d'amour, tout ça dans les Français, on l'appelle aimer, qui est traduit par philéo. On l'appelle aussi l'amour filial. C'est l'amour émotionnel, l'attachement émotif, émotionnel. Et puis il y a l'amour agapé, qui est le vrai amour. C'est lui-même qu'on dit amour. Philéo, là, non. Philéo et Eros, dans la Bible, on les appelle. On dit, ils ne sont même pas traduits littéralement par amour, parce que c'est très différent. L'amour agapé est un amour qui donne. C'est ce que Christ a manifesté. La Bible dit, Christ a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ a voulu prendre les deuxièmes vases, il n'a pas pris des vases qui étaient d'abord destinées pour le bien du couple, mais qui étaient destinées pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'il a pris ce qui était destiné à la gloire de Dieu, le foyer a été béni. Amen. Il a pris ce qui était destiné à la gloire de Dieu. Le foyer a connu un vin qui était meilleur que le premier vin. C'est-à-dire, ce que je vous ai expliqué la dernière fois, c'est qu'il y a une joie dans le foyer qui est meilleure que le temps de coup de foudre. Vous faites 5 minutes sans vous appeler. 5 minutes en vous appelant tout le temps. Dieu est capable de te donner une joie meilleure. Un amour meilleur. Mais pour cela, il faut prendre les vases du Seigneur. Pas les vases du monde. Pas les vases selon le monde. Juge-toi toi-même. Est-ce que tu es prêt à te marier? Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a des personnes pour lesquelles, malgré leur âge, Dieu dit, il est bon que cela soit seul. Parce qu'ils sont dangereux. Quelqu'un qui vit pour des sentiments profondément éros, pour sa chair. C'est quoi quand on parle de sentiments éros? Je peux inclure quoi là-dedans? Les gens qui se marient pour des raisons financières. Tout ça, Dieu a passé. Ce n'est pas l'amour selon Dieu. Donc les gens viennent, tu vois, vous allez voir. Les jeunes se vont arriver à l'église. Vous regardez un peu. Vraiment, il faut que le gars soit un peu galant, bien. Donc un va arriver comme ça. Ouais. Sûrement que c'est l'homme de ma vie. Un choix purement charnel. Ça ne veut pas dire que l'homme que tu vas rencontrer ne va pas te satisfaire. Ou bien la femme que tu vas rencontrer ne va pas te satisfaire sur le plan éros, philéo. Non, c'est pas ce que j'essaie de l'expliquer. Mais je dis que dès le début, on a tous la même problématique. Comment faire pour que le foyer puisse aller de gloire en gloire? Donc, les gens viennent poser un problème à Jésus. Il n'y a pas de vin. Mais pas de vin, pas le vin du ciel. Mais il n'y a pas de vin pour ces noces-là. Et Jésus, pour faire le vin, comme si à un moment donné, il ne va pas s'occuper de ce qu'eux-mêmes ils ont pris pour faire le mariage. Il va prendre d'autres vases qui étaient destinés à Dieu et c'est cela qu'il va utiliser. Et lorsque le miracle va se produire, le couple va être béni par le vin nouveau. Alléluia. Alléluia. Et donc, je disais donc, certains vont se marier pour tout ce qui, quand je passe dans le sens de érotique, tout ce qui est intérêt financier, matériel, toutes ces choses-là, on le fait pour nous. Ah, j'arrive. Je vais m'arrêter devant, voir qui garde sa voiture. Dès qu'on voit le frère, il a déposé une voiture. On regarde maintenant les doigts. Pas d'alliance. Donc,
Quand les gens veulent qu'il n'y a pas d'alliance, il y a un petit sourire mesquin là. Et puis après maintenant, on essaie maintenant de créer les contacts. Je vais vous expliquer tout cela. Si vous me permettez, j'arrive tout de suite là-dessus. En parlant des 6 vases que Jésus a pris. Pourquoi 6? La Bible dit que dans chaque vase, dans les vases, il y avait deux, il y avait un qui portait 2 mesures et l'autre 3 mesures. Les mesures sont un symbole des jours. On va expliquer. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, on a compris, il ne faut pas se marier pour soi. On dit, mais si je ne me marie pas pour moi-même, comment je serai heureux si je vis seulement pour quelqu'un? La Bible, c'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut avoir la vie, il faut qu'il meure. Tu veux la vie dans ton foyer, non? Il y a un moment donné où toi, tu meurs. Quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a d'abord tué Adam pour lui donner la vie. Vous comprenez, non? Pourquoi Dieu n'a pas pris Adam réveillé? Qu'est-ce qui empêchait Dieu de faire une opération, comment dire, à yeux ouverts, éveillé? Il fait une anesthésie locale. Les médecins, Dieu aurait pu faire ça. Et puis il enlève la côte. Il dit, il faut que tu dormes. Dormir, quelquefois, c'est le symbole de la mort. Quand Jésus allait voir Lazare, on dit, comment est Lazare? Il dit, parce que quand Dieu s'apprête à faire un miracle, il ne dit pas que la personne est morte. Il dit, elle dort. Parce que après, parce que quand Dieu dit, il dort. Parce que quand Dieu dit dormir, lui, pour les hommes, c'est la mort. Mais pour Dieu, c'est le début d'une gloire nouvelle. Lorsque l'apôtre Paul allait ressusciter, pendant qu'il était en train de prêcher, il y a un monsieur qu'on appelle Étuchus qui est tombé. Quand Paul est arrivé vers lui, Paul dit, il dort. Oh, le jeune homme était mort. Mais il savait que Dieu allait le ressusciter. Quand la résurrection va venir, on dit, tu dors. Quand tu vas partir, on dit, tu es mort. Donc, Dieu a fait dormir Adam pour pouvoir créer Ève. Il faut que tu meures à tes intérêts, à tes recherches personnelles, à ton égoïsme, à tes calculs, pour toi-même. Moi-même, quand je vais me marier, il faut que je trouve un homme capable de me faire aller de temps en temps quand même aux États-Unis. Il faut qu'il soit capable de payer mon truc. Un homme, ah, et moi j'ai trouvé une femme. Il faut une femme qui soit ceci, qui soit cela. Dieu te dit, tu dois mourir. Sinon, on ne crée pas ton conjoint. Alléluia. Les conjoints qu'on fabrique étant réveillés sont des conjoints dangereux. Alléluia. Ah, est-ce que quelqu'un me suit? Amen, 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 amen. Alléluia. Donc, il y a les intérêts heureux. Et puis, il y a les intérêts de l'âme. Beaucoup de gens se marient parce qu'ils cherchent. Donc, il y a tout ce qui est intérêt matériel, comme je dis, Eros. Et puis, il y a l'intérêt de l'âme. C'est l'âme qui a le sentiment philéo. Philéo, c'est un sentiment d'attachement, pas pour le physique, mais pour combler son vide intérieur. Dans ta vie, on t'a trop maltraité, tes parents t'ont abandonné. Donc, tu cherches un homme capable de te prendre, de savoir te parler avec douceur. Quand tu pleures, il vient te consoler. Ceci, cela. Tu es quelqu'un qui a trop souffert dans la vie. Donc, dès que tu es là, tu vois quelqu'un. Il suffit que quelqu'un sache t'entretenir un peu. En même temps, tu veux tomber amoureuse de lui. Je fais ça souvent. Mais c'est pourquoi il y a des femmes qui tombent amoureuses des pasteurs. C'est ce que tu ressens pour l'homme de Dieu, pour la personne, ce n'est pas de l'amour. C'est autre chose. Et si tu te maries avec ce genre de choses-là, parce que lui, il m'entretient bien. On dit pourquoi tu te maries? Parce que je ne sais pas, mais quand je parle avec lui, il me comprend. Il me comprend. Est-ce que toi, tu le comprends? Je suis amoureuse. Il sait m'écouter. Il sait m'entendre. Il me comprend. Toi, tu le comprends? Si tu te maries comme ça, tu vas échouer. Le vin va finir. Le gars sera épuisé. Je cherche quelqu'un sur qui me reposer. Je suis fatigué dans la vie. Alléluia. Mais Dieu te regarde. Dieu dit, il est bon que tu sois seul. Parce que tu n'as pas compris le mariage. Tu penses que le mariage, c'est pour ta joie personnelle.
des vases destinés au mariage, c'est-à-dire destinés pour que nous-mêmes on s'ambiance. Les vases étaient là comme ça, on boit. Le monsieur dit, il dit, on boit d'abord le bon vin. Quand on est ivre, ça veut dire, nous, on doit se réjouir. Jésus n'est juste qu'un invité qui est assis dans son coin, qui nous aide à nous réjouir. Il n'a qu'à venir danser avec nous. Quand il y a eu le drame, les gens peut-être étaient en train de réfléchir, fallait-il aller acheter du vin? Mais Marie a compris le profond problème. Dans le drame conjugal, il faut écouter Jésus. C'est lui qui a créé le mariage. Ce n'est pas l'homme. Mais les hommes s'agitent et se comportent comme si c'était eux-mêmes. C'était ceux-là qui avaient initié le mariage. Ils ont leur propre solution. Leur propre conseil. Leur propre stratégie. Leur propre conseiller conjugaux. Et constamment, ils ne font qu'amener les gens là-bas. Les gens ne peuvent que... Ils vont vous donner encore d'autres vases. Vous allez mettre... Le vin va venir à manquer encore. Après 3 mois d'entretien, après vous allez parler avec le conseiller, vous allez voir que votre couple va encore aller à la dérive. Non! Il faut faire comme Marie, aller appeler Jésus. Mais sincèrement. Et quand tu l'appelles, Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Ce n'est pas pour l'appeler et puis quand il vous dit, vous allez commencer à discuter avec lui. Non, Jésus, tu sais les bases. Elle dit, ce qu'il va vous dire de faire, faites-le! Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de voir, mec. Tu penses que les vases destinés à la purification, est-ce que tu crois que ça s'y est pour mettre du vin? Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que donc, lorsqu'ils sont arrivés, la Bible dit qu'il y avait 6 vases qui sont destinés à la purification des justes. Je veux dire que dans ce passage, en fait, tout ce que le Seigneur dit a un sens. Amen. Toutes les précisions qu'il donne sont pour un but. Ce n'est pas fortuit. Quand on parle de 6, on parle du jour où Dieu a créé l'homme. On parle de comment Dieu a fait l'homme et la femme. Et il leur a dit, soyez féconds. Donc dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe, alléluia, portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant lieu du fruit, d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fit ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Les 6 vases. Alléluia. Mais est-ce que vous savez même, quand Dieu dit, pendant que j'étais en train de prier pour prendre le message, il dit, mais l'homme va avoir pour nourriture les herbes des champs et leurs fruits. C'est vrai, physiquement. Est-ce que ça a un sens spirituel? Amen. En ce qui concerne l'équilibre pour la bonne vie d'un homme. Mais nous toucherons cela plus tard. Alléluia. Alléluia. Donc la Bible dit que le 6e jour, il est marqué que Dieu a créé l'homme et la femme. Et Dieu leur a dit, c'est là qu'il donc se trouve, je pense, toute la notion du mariage. Avec un but, soyez féconds, multipliez. En fait, faites venir mon règne sur la terre. Donc le 6e jour. La Bible dit aussi donc qu'il y avait 6 vases. Amen. Alors pour comprendre l'union que Dieu a faite pour Adam et Ève, bien sûr, il faut prendre le temps de toucher un point que j'avais enseigné la première fois que je parlais du foyer. Comment Dieu a fait le mariage d'Adam et de Ève. Amen. Là, je vais revenir sur quelques points que j'ai cités samedi. Ceux qui étaient là samedi, ça sera un rappel pour vous, avec d'autres détails supplémentaires. Amen. On va prendre donc le détail de l'union de Adam et de Ève pour comprendre les vases de Dieu, comment Dieu, les vases de Dieu pour le mariage. Alléluia. Donc après que Dieu, voici les étapes qu'on va parcourir. On les fera pas. Après que Dieu ait pris les vases n'étaient pas suffisants. Donc les vases, c'est un environnement. Les vases, c'est une mentalité. C'est un type, une façon de penser dans laquelle, n'est-ce pas, Dieu a demandé à ce qu'il soit mis de l'eau. L'eau, c'est le symbole de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit que les vases, il y en avait qui contenaient deux mesures, il y en avait qui contenaient trois. J'ai dit que ces deux mesures et ces trois mesures, vous allez voir qu'elles sont liées au deuxième et au troisième jour de la création. Je parlerai dessus par rapport donc à l'environnement qu'il faut créer, n'est-ce pas, pour qu'un couple soit épanoui. Alléluia. Pour qu'un couple soit épanoui, pour que la femme soit heureuse, tout ça. Le deuxième et le troisième jour, vous allez voir que Dieu va fabriquer, Dieu va faire créer la nature, le monde dans lequel il va y mettre l'homme, l'environnement divin. Amen. Alléluia. Vous allez savoir que l'environnement joue pour beaucoup. L'environnement est très important. Est très important. Amen. Donc, même une femme, pour savoir comment attirer son conjoint, il y a l'environnement, la façon dont je me tiens. Tout ça, c'est l'environnement que je crée. Samedi dernier, je disais à un mariage où je prêchais, je donnais quelques conseils sur le même message. Je suis allé un peu vite et puis j'ai dit, excusez-moi, hein, c'est pas pour être grossier, mais les femmes voient les hommes qui vont, il y en a qui trompent les femmes, qui vont de femme en femme. Mais dans la réalité, c'est que il n'y a pas vraiment de différence dans les rapports intimes. Il n'y a pas vraiment de différence. Il n'y a pas vraiment de différence. Mais qu'est-ce qui amène les hommes à aller d'une femme à une autre, si c'est vraiment la même chose? En fait, c'est l'environnement. L'atmosphère que la femme ou que l'homme crée, soit vis-à-vis d'une femme, hein, la manière, donc, la chose, ce n'est pas le rapport sexuel en tant que tel, mais il y a tout un environnement, et qu'on va toucher ça dans la restauration de la famille, vous allez voir les femmes, il y a tout un environnement qu'il faut avoir pour pouvoir. Oui, il faut avoir, c'est tout ça, c'est important. Ça dit, il y a un environnement, tu crées. Ton mari ne peut pas jamais regarder à gauche. Il y a un environnement, tu crées. Quel que soit l'endroit où ton homme se trouve, il arrive. Le premier jour, ça dit, le deuxième et le troisième jour, là, Dieu a créé l'environnement. Alléluia. Quand il a mis Adam et Eve, ils étaient à l'aise. Il y a des choses. Hein, les femmes qui disent, elle dit, pourquoi tu vas voir l'autre là? Femme, c'est pas femme. Femme, c'est femme. Qu'est-ce qu'elle fait que moi je ne peux pas faire? C'est pas femme, c'est pas femme. Faut pas dire ça. Femme, c'est femme, c'est vrai. Femme, c'est femme. Mais, ou bien, garçon, c'est pas garçon. On est tous même chose. Non. Les hommes sont. Ce que vous voyez vous influence énormément. Donc, il y a l'environnement. Alléluia. Là, je vais un peu de l'avant. J'ai dit que même les femmes, vous savez que même dans votre maison comme ça, là, les petites, la maison dans la maison même est tenue. Est-ce que vous savez que chaque fois, il faut changer même la décoration intérieure? Parce que un homme, naturellement, là, je dévance mon message. Hein, je vais de l'avant. C'est-à-dire qu'un homme, il aime le changement. La monotonie tue. C'est pas tous les hommes, même, on n'aime pas la monotonie. Homme comme femme. Il faut des changements. Regardez, vous-même. Pendant un an, tu as toujours le même habit, tous les jours. Même si c'est joli. Le vin va finir, ça veut dire la joie de l'habit va partir. Ça veut dire, Non, attends, comprenez-moi. C'est ce que j'appelle environnement. Hein? Tu as payé une sape. On dit, elle est très belle. Ok, on a compris. Comme on t'a dit que c'est joli, demain encore tu portes. On dit, mon frère, c'est joli. Après demain, tu portes. Ça ne remet pas en cause la beauté. Mais à un moment donné, on est fatigué. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. J'ai donné le conseil à une soeur. J'ai dit, tu vois, il faut que ton mari ait l'impression que tu es toujours nouvelle. Quand c'est comme ça, là, il aime être chez lui. De la même façon que ce qui te choque aux yeux, savoir qu'un habit qu'on porte tous les jours, c'est choquant. Une maison qu'on trouve identique tous les jours, ça fait fuir. Il y a des fois, tu arrives comme ça, tu changes un peu, juste l'emplacement du lit. Tu vas, tu apprends, tu changes un peu seulement. C'est-à-dire, mais c'est important. Dieu, pour que Adam et Ève soient contents, il a créé un jardin d'Éden, un environnement. Un environnement. L'homme était à l'aise. La femme aussi, ils étaient contents. Alléluia. Alléluia. Bon, là, on va toucher ça une autre fois. Amen. Amen. Quelle heure il est? Est-ce que ça monte la marche? Hein? 37? Ah, ok. C'est bon. Donc, ça fonctionne. Amen, amen. Bon, je me dis que. Ok, on y va. Genèse chapitre 2, verset 18. Il est dit: l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les eaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, à tout le bétail, aux eaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Rappelons donc ce passage. La Bible dit, Genèse 2, 18, que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lorsque Dieu a dit à l'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul, on constate qu'immédiatement, Dieu n'a pas envoyé Ève. Quand vous lisez bien le passage, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et immédiatement après, la Bible dit que Dieu a envoyé les animaux des champs pour que l'homme puisse leur donner un nom. Alléluia. Petite parenthèse, c'est que cette partie d'enseignement, je vais aller un peu vite là-dessus, parce que en 2005, non, mais 2006, j'ai longuement parlé de cela. Vous pouvez vous procurer les coffrets, les CD. Amen. Mais je vais aller pour ceux qui n'ont pas encore entendu cela, pour qu'on reste dans l'esprit. Donc, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a le désir de donner une femme à Adam. Mais dès qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, vous regardez le verset 19. Au verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au verset 19, il dit, voici les animaux, donne-leur un nom. 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. 19, donne un nom aux animaux. Ça va continuer ici jusqu'au verset 21, 22. Où l'homme sort cette phrase, après avoir nommé, après avoir donné un nom à tous les animaux, après avoir donné un nom à tous les animaux, voici la phrase qu'Adam prononce. Il dit, il ne trouva point d'aide qui soit son semblable. C'est Adam qui a dit ça. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu envoie les animaux vers Adam pour qu'il leur donne un nom. Adam finit de leur donner un nom. Lorsqu'il a fini, Adam dit, dans tout ce que je viens de nommer, je n'ai pas trouvé une personne qui soit semblable à moi. Quand Adam va prononcer la phrase, Dieu va le faire coucher, Dieu va le faire dormir, il va prendre sa côte, il va susciter Ève. Lorsqu'il va susciter Ève, il réveille Adam, Ève vient, et voilà la phrase qu'il prononce. Il dit, cette fois-ci, ce qui signifie clairement qu'il était déjà en train de chercher. Il dit cette fois-ci, ça veut dire qu'il y a eu d'autres fois. Et que cette fois-là, voilà celle qui est os de mes os et puis chair de ma chair. Samedi, on a trop enseigné là-dessus. Amen. Qui était là samedi? Les ceux qui ne sont pas mariés. Les autres, vous étiez. Bon, tous ceux qui ne sont pas mariés dans la salle, levez la main. Et l'affaire n'est pas bien. Vous voulez me fatiguer, fatiguer ma bouche. Amen. Bon, on va bientôt finir. Donc, Dieu dit, Adam dit, suivez bien, il dit, cette fois-ci, voilà celle qui est os de mes os.
chair de ma chair, on l'appellera femme. Il lui a donné un nom. Donner un nom dans la Bible. Dieu dit, Adam, donne un nom. Donner un nom, ça veut dire, à la limite, c'est pas comme chez nous où on nomme quelqu'un. C'est donner même une destinée. C'est donner un sens. Quand Dieu vient, il regarde Abraham. Il dit, je ne vais plus t'appeler Abraham. On va t'appeler Abraham. Il lui donne un nom. Un nom sur sa destinée. Il vient, regarde Simon. Il dit, on ne t'appellera plus Simon. On va t'appeler Pierre. Parce que tu dois être quelqu'un de solide et de dur. Tu es quelqu'un qui vacille. Mais je ferai de toi quelqu'un qui est dur. Afin que, par les enseignements, en fait, on puisse bâtir quelque part la doctrine de la parole sur toi. Amen. Donc, quand Dieu nomme, donc quand Dieu dit à Adam, donne un nom aux animaux, ce n'était pas une affaire de regarder le singe pour dire c'est un singe. Il s'agissait de prendre le temps, d'observer, d'écouter Dieu, pour savoir pourquoi Dieu a créé cet animal. Ça ne venait pas de lui-même. Parce que Dieu a créé chaque chose pour un but. Tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a créé pour un but. Donc, il s'agissait de regarder, de retrouver le but de Dieu et de dire, toi, bon, je ne sais pas quelle langue il parlait, mais quand il a dit singe, dans une autre langue, mais il donnait la destinée au singe, que tu es destiné aux arbres. Et puis, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il a pris le temps de nommer les animaux. Et à un moment donné, quand il a fini, lui me dit, mais il n'y a personne qui me ressemble. Dès cet instant, Dieu le couche. Et Dieu suit. Et quand il se lève, il dit, voilà, cette fois, j'ai trouvé quelqu'un. Et il continue à nommer. N'est-ce pas, non? Parce qu'il dit, dès que, il dit, cette fois-ci, voilà celle qui est os de mes os, chef de ma chair. Et quand il se relève, il dit, on l'appellera. Il lui donne encore un nom. Donc, c'est la même continuation de nomination, là, qu'il a fait avec Ève. Alléluia. Alléluia. Pour restaurer la gloire dans le foyer, il faut les six vases. Les six vases, le sixième vase, c'est de comprendre comment, ça veut dire dans le sixième jour, pour faire le mariage, c'est de saisir comment Dieu procède. J'ai dit tout à l'heure que le but, dans un premier temps, ce n'est pas vous-même, mais c'est le plan de Dieu qui vous importe. La volonté de Dieu, la destinée que Dieu vous donne, que Dieu donne à la personne que vous êtes en train de regarder, qui est très importante. Amen. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas fait cela avant de se marier et qu'il est déjà marié, Dieu ne dit pas, comme vous avez raté le premier vin, votre mariage n'est plus bon. Non. Il dit, maintenant que vous êtes ensemble, redéfinissez un but. Ayez une vision. Mais votre vision ne doit pas être pour votre bonheur d'abord, mais pour ma gloire. Si vous définissez votre mariage pour ma gloire, je vais renouveler constamment votre vin. Mais si vous destinez votre mariage pour vous-même, le vin va s'arrêter. Alléluia. 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 Et donc, Dieu vient et il donne à Adam donc, de donner un sens à la vie de, comment dirais-je, à tous les animaux. Donc, il regarde, il prend un truc, il lui donne un nom. Il prend un autre, il lui donne un nom. Et quand il trouve, voilà comment il la reconnaît. Os de mes os, chair de ma chair. L'os, ça parle de l'être intérieur. La chair, ça parle de l'être extérieur. Adam, pour choisir Ève, pour lui donner un nom, il ne l'a pas jugé d'abord physiquement. Il l'a jugé spirituellement. Il l'a jugé intérieurement, avant de la juger physiquement. On ne choisit pas, alléluia, un conjoint, si tu veux l'homme de ta vie, ce n'est pas ce qui frappe aux yeux que tu dois regarder d'abord. Sinon, tu vas te tromper. Amen. Adam n'a pas dit, voilà celle qui est chair de ma chair. Et puis, os de mes os. Non, il commence par os. Os de mes os, chair de ma chair. Tu risques de durer longtemps. Et d'avoir des premières bases pour ton mariage, si tu commences ton couple avec chair de ma chair, en voyant ce qui t'arrange d'abord. Parce que quand tu regardes les os, tu vois la destinée. Tu sens le but. Pourquoi cette personne-là est particulière. Pourquoi vous allez ensemble? Et pourquoi toi, tu es choisi pour l'aider? Pas pour t'aider. Pour l'amener vers sa destinée. Alléluia! Alléluia! Mais avant d'arriver là, il y a toujours un moment avant de vous donner l'homme ou la femme de votre vie où Dieu vous envoie, entre guillemets, des animaux à nommer. Écoutez-moi bien. Avant de te donner la personne de ta vie, là je parle à ceux qui ne sont pas encore mariés. Si tu es déjà marié, c'est déjà bon. Amen. Je vais toucher ton cas après. Mais quand tu n'es pas marié, là, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Après ça, directement, il n'envoie pas Ève. Il dit, donne des noms aux animaux. Quand toi-même, tu es là, tu dis, Dieu, le temps de ton mariage arrive. Dieu ne te donne pas directement ton conjoint. Il va t'amener des hommes, des personnes, qu'il appelle ici, entre guillemets, des animaux. Des gens de tous les jours, que tu vas rencontrer. Et à qui tu dois donner un nom. Que tu dois discerner. Vous savez, beaucoup de gens ne se marient pas parce que simplement ils attendent en priant que subitement, sans qu'ils aient nommé les animaux, entre guillemets, Dieu n'a qu'à venir me révéler un coup, ma cote, ça ne marche pas. Tu dois prendre le temps. Alléluia. D'observer les gens, de marcher, de juger, de regarder et de dire oui ou non. Alléluia. Il y en a qui, malheureusement, dans les nominations, sont fatigués. Après avoir donné trois noms, il dit le premier, lion, oiseau. Il dit, Dieu, je suis fatigué, il y a trop d'animaux dans la forêt. Maintenant, quand il découvre le lion, il dit, le lion, moi, dans la vie, je suis quelqu'un de fragile. J'ai besoin d'un gars qui est dur. Un gars, on te dit, faut pas regarder la chair. On commence par les os. Quelle est sa destinée? Tu dis, non, j'ai besoin de quelqu'un qui a du courage. Un homme qui a du caractère. Et tu fais rentrer dans ta vie un homme, entre guillemets, que comme un lion. Et des gens ont bâti des foyers comme ça. Donc, j'ai besoin que Adam marie la lionne. Et subitement, on découvre des foyers déchirés, déchiquetés. Les gens se frappent tous les jours. Oh! Parce que tu n'as pas fini de nommer les animaux. Avant de donner Ève, il fallait donner des noms. Il faut identifier qui est dangereux, qui n'est pas dangereux, qui est bien, qui n'est pas bien. Il y a des personnes dans la nomination, c'était épuisé, bien le premier animal qu'on a envoyé. Il dit que sûrement c'est le plan de Dieu. Hier, il a dit, il n'était pas bon que je sois seul. Donc le premier animal que je rencontre dans la forêt, c'est que c'est lui. Et ils vont marier un singe. Le gars reste plus tranquille dans la maison. Hein, le singe là, il saute, il est destiné. Alléluia. Le singe va de branche en branche, non? Donc ton conjoint va... Chérie, mais reste à la maison, on va s'asseoir. Donc tu sais, j'ai une affaire ici. Je dois aller aux États-Unis, en France. Je m'en vais, je rentre à 23h, à 2h du matin, c'est le travail, de branche en branche. Alléluia. Un singe doit marier une guenon. Parce que, non, non, vous savez, c'est une affaire de destinée. Là, les deux sautent de branche en branche. Nous sommes ensemble dans les arbres. Un lion va avec une lionne. Un homme va avec un homme. Il faut sentir qui ils sont. Qui il est. Qui il est. Regardez. Prendre le temps. Et j'expliquais cela. Je finis bientôt. J'expliquais cela à ma fille. Je dis, n'ayez pas peur de rencontrer les gens. Au niveau de Eden, on a un département pour les non-mariés qu'on appelle Eden. Je dis, il y a une période qui est normale, qu'on appelle la camaraderie. J'appelle ça camaraderie. C'est normal de rencontrer les gens.
Malheureusement, certaines sœurs sont faibles. Dès qu'un frère les approche un peu, elles croient que... Il vient te dire, bonjour ma sœur, est-ce qu'on peut aller prendre une glace? Si demain il a vu une autre sœur pour dire, on peut prendre une glace, c'est un faux frère. Mais est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Rien. Tu as tellement soif de te marier que dès qu'une personne te salue, sûrement que c'est l'or de ma vie. Mon frère, tu as tellement soif. Dès qu'une sœur sourit un peu avec toi, comment tu vas, frère? Ouais. Moi, à un moment donné, je ne savais pas, j'avais tellement besoin d'affection. Parce que lorsque j'ai quitté l'islam, j'ai connu l'abandon de la famille. J'avais tellement mal. Je ne sais pas que je recherchais l'affection. Autant. Et puis, juste à l'église, une soeur qui est venue, elle parlait en espagnol. Elle ne me disait pas qu'elle était amoureuse de moi. Hein. Elle m'a dit simplement le mot. Mohamed, je t'aime. Mais ça, la phrase-là m'a troublé. Parce que c'est comme si, vous savez, c'est un mot qu'on ne m'avait jamais dit. Du coup, ça m'a tellement consolé que j'ai eu l'impression que j'étais amoureux d'elle. Mais ce n'était pas de l'amour. En réalité, c'est un type d'égoïsme. Vous me suivez? Et je pensais que ça pouvait être elle, ma femme. Parce que je n'étais pas prêt. Ça veut dire, mon être intérieur était blessé. Je ne pouvais pas reconnaître. Mais Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Vous allez savoir que... Amen. Bref, on va s'arrêter là. Alléluia. Dis à ton voisin, mardi prochain. Bon, c'est vrai, j'ai coupé la phrase au milieu de mardi prochain. Non, on va apprendre. Ton foyer va être béni. Tu vas trouver la bonne personne. Je veux simplement te garantir que tu ne peux pas forcer les gens à te faire des avances, à venir te considérer. Mais tout ce qu'on va faire, on va travailler sur toi-même. Écoute Dieu. Recherche sa gloire. Ne recherche pas absolument, dans un premier temps, à combler ton vide intérieur en cherchant un conjoint. Tu vas faire une erreur dans ton choix. Pendant un moment donné, tu vas connaître un vin de joie. Mais très vite, ça va se transformer en situation dramatique. Comme Pasteur Alain dit, ça, il va devenir pour toi une eau de Mara. Et tu seras pour lui une eau de Mara. Le foyer importe plus à Dieu qu'il nous importe. Quand Dieu regarde un foyer, il ne voit pas les bagues, il ne voit pas la célébration du mariage. Il voit un foyer solide. Il voit quelqu'un que tu aimes vraiment. Quand tu vois ton conjoint, tu as tellement envie qu'il réussisse. C'est cet amour-là qui fait que tu arrives à appliquer ce qu'on appelle la soumission. À part cet amour, tout ce que tu vas faire, la Bible, c'est comme de l'obéissance. C'est-à-dire, c'est juste un respect des principes. Mais tu ne sens pas ton homme. Tu ne le sens pas. Tu n'es pas capable de l'amener à manifester son potentiel. Parce que tu ne t'es pas marié avec lui à cause de sa destinée. Monsieur, tu n'arrives pas à faire du bien à ta femme. Ton foyer n'est pas parce que tu ne t'es pas marié avec ta femme à cause de sa destinée. Tu n'as pas connu ses os. Tu n'as pas connu qui elle était. Tu n'as pas su qui elle était. Tu t'es marié parce que physiquement la personne te plaisait. Mais te plaisait. Égoïsme. Parce que tu l'aimais, toi. Est-ce qu'elle te plaît? Est-ce qu'elle te fait plaisir? Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas s'il y a le mot même pour dire on se marie avec quelqu'un parce que pas il me plaît. Parce qu'il me fait, il me plaît, c'est-à-dire c'est comme si moi il m'apporte mon plaisir à moi. Mais quelqu'un que je sens capable de pousser vers sa destinée. Alléluia. Et quand je regarde sa destinée, je sens que lui et moi on va ensemble. Mais ne vous inquiétez pas. Ne dites pas, oh, comment le saura-t-on? C'est pas du tout compliqué. Je vais vous aider. Amen. C'est pas du tout compliqué. On va baisser la tête, on va prier l'Éternel pour ce qu'on a dit aujourd'hui. Ce que le Seigneur te demande aujourd'hui, Dieu a commencé à changer le vase. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qui étaient en train d'amener pour leur mariage les vieux vases, des vases destinés au mariage, Dieu t'a dit aujourd'hui, non mon fils, non ma fille. Le vase dans lequel je me glorifie, c'est celui qui m'est destiné. Amène-le-moi. Tu es sûrement déjà marié et tu commences à sentir que le vin commence à manquer dans ton couple, dans ton foyer. Non, ne t'inquiète pas. Ne pleure pas. Parce que Jésus est une solution. Ne cours pas vers les hommes. Mais comme Marie, va vers le Seigneur et fais ce qu'il va te dire de faire. Et ce qu'il te dit aujourd'hui, c'est prendre des vases qui sont destinés à la purification. Il y avait 6 vases. 6. Le jour où Dieu a mis l'homme et la femme ensemble, comment est-ce qu'il l'a fait? Il rectifie ton foyer par rapport à ce que Dieu est en train de te révéler. Rectifie ton être intérieur. Change le vase que tu es. Crée l'environnement qui changera ta vie, qui changera ton conjoint. Crée l'environnement. La clé, c'est l'environnement. L'environnement comme le vase où on va mettre l'eau. Et l'eau va se transformer en vin. Seigneur Dieu des cieux, nous voulons nous remettre en tes mains ce soir. Papa, c'est toi qui nous révèles les choses cachées. Tu dis que tu révèles au travers des paraboles et dans le Nouveau Testament les mystères cachés depuis la fondation du monde. Seigneur, parce que le temps de la gloire n'était pas encore là, tu avais mis des anges avec une épée flamboyante pour empêcher d'entrer dans les années d'Éden. Ça veut dire comprendre les mystères du jardin d'Éden. Mais tu viens nous dire que Christ en nous, l'espérance de la gloire, nous avons à nouveau accès à la gloire. À nouveau, nous pouvons entrer dans les années d'Éden, récupérer ce que le diable nous a volé, récupérer ce que nous avons perdu, Seigneur Dieu. Sans cela, tu te révèles en nous comme étant Jéhovah Rapha, celui qui restaure, celui qui guérit, celui qui utilise les véritables vases. Père éternel, aide-nous aujourd'hui à créer les vases dans nos cœurs, à être ces vases de gloire, à être ces vases d'honneur dans lesquels nos foyers respectifs seront transformés, bénis, heureux, dans lesquels, Seigneur Dieu, notre foyer futur sera encore béni. Sois honoré, sois magnifié pour ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, sois le bienvenu au mardi des champignons. On continue. Amen. Maintenant, ce que je vais vous dire pour le mardi prochain, s'il vous plaît, comme on a dit, le mardi des champignons a la particularité d'être un programme où on pourra poser des questions. Donc, écrivez vos questions. Prenez le temps de les noter. Mardi prochain, venez avec, on continue l'enseignement et vous les mettrez dans les paniers. Si vous voulez le faire maintenant, vous pouvez le faire maintenant. Si vous avez déjà marqué vos questions, vous pourrez le faire pendant que les paniers d'offrande vont passer. Nous allons apporter à notre Dieu. Tu vas faire une offrande, tu vas semer par rapport à la parole que tu as entendue, par rapport à la parole que tu as reçue. Alléluia. Alléluia. Si l'Éternel t'a béni, si l'Éternel t'a parlé, si tu penses que tu as mangé une nourriture qui est solide pour ton âme et qui a fait du bien à ton âme et qui va t'aider, tu vas bénir l'Éternel, tu vas faire une action de grâce, tu vas semer dans cette parole-là en disant, Seigneur, transforme ma vie, Seigneur, rends-moi apte, Seigneur, rends-moi prêt. Et tu sais quels sont les défis conjugaux auxquels tu es confronté. Alléluia. Et tu vas laisser cette parole-là te transformer pour voir Dieu décanter ta situation conjugale, quel que soit le problème. Bénissons l'Éternel par nos offrandes. Amen. On fait les offrandes.
Ses enfants, il est délivre de leur souffrance. Je veux ses enfants, ses enfants, il est délivre de leur souffrance. Je veux ses enfants, ses enfants, il est délivre de leur souffrance.
Alléluia. Ah, qui sait déjà que quelque chose de bien arrive dans sa famille, dans son foyer. Alléluia. Donc les mariés, allez voir tout ce que vous avez bâti de manière égoïste. Bannissez cela. Oubliez ça. Amen. Et maintenant, commencez à reconstruire. Admirez votre homme, votre femme. Et voyez ce qu'il faut faire pour qu'elle soit bénie. On va se tenir debout, en même temps pour terminer par la prière.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.